Bonsoir. Vous allez bien? Bon, tant mieux. Le soleil, ça aide, hein? Oui, le soleil, la chaleur, ça aide à mieux aller. Ça a une influence, veut pas. Ce soir, le titre de la prédication sera « L'Évangile et mon cœur ». Qui vient d'une étude de M. Timothy Keller sur 8 thèmes. Et un de ces thèmes-là, c'était l'Évangile et mon cœur. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui étaient là mercredi passé. Des éléments que j'ai emmenés mercredi passé se retrouvent ce soir dans la prédication. Donc, vous pourrez dormir durant ce temps-là, il n'y aura pas de problème. Nous allons traiter le sujet selon l'Évangile de Luc, au chapitre 15, du verset 11 au verset 32. Et c'est les deux fils, et il l'appelle communément le fils prodigue ou l'enfant prodigue. Vous savez ce que ça veut dire, prodigue? Ça veut dire dépensier. Ça ne veut pas dire, c'est pas un prodige, c'est un prodigue. C'est pas un prodige de tout dépenser. Je préfère faire ça en masse, puis je ne suis pas un prodige. Mais prodigue, qui dépense tout, sans compter. Mais j'aimerais vous poser une question. Même deux questions. Pourquoi est-ce que vous venez écouter une prédication ce soir? Il fait beau, on pourrait aller marcher sur le bord du parc ou n'importe où, ce serait bien, main dans la main. En tout cas, c'est ce que je ferais avec mon épouse. Pourquoi venir écouter une prédication? Des réponses? Ah, merci, mais ce n'est pas une bonne réponse. Tu as beau m'aimer, je te remercie beaucoup, en passant. Mais ce n'est pas une bonne réponse. Pourquoi est-ce que vous devriez venir écouter une prédication? Pour entendre ce que Dieu veut dire à notre cœur. Oui. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce que Dieu va dire à notre cœur? Ah! Lève-la, tu viens de gagner une belle médaille ou je ne sais pas quoi, là, deux morceaux de robot ou peu importe. C'est exactement la réponse. Pour que notre vie change. Vous savez, pas tous les matins, mais certains matins, je lis la presse, je lis mon journal, puis je prends le temps de le lire. Surtout là, je suis en vacances, que je prends le temps de le lire un peu plus. Mais le journal, malgré que je le lis, puis il y a déjà une fois, je l'ai lu deux fois. Je m'étais trompé de journée, j'ai appris le journal d'hier, puis je l'ai relu. Je l'ai lu deux fois. Mais malgré que je l'ai lu deux fois, il n'a jamais changé ma vie. Même que la deuxième fois, je l'ai trouvé plus plate un peu. On est venu écouter la parole de Dieu pour qu'elle change notre vie. Pour que l'on sorte d'ici pas de la même manière que l'on a rentré. Qu'on sorte avec quelque chose qui va rester dans notre tête et qu'on va méditer et qu'on va changer dans notre vie. Dieu veut transformer notre vie à l'image de ce que Christ désire de nous. C'est le but lorsqu'on écoute une prédication. C'est le but premier. Il peut se rajouter d'autres sous-buts en arrière là, ou d'autres plans ou d'autres choses, mais principalement changer notre vie. Mon titre n'est pas long. L'Évangile et mon cœur. Deux mots. Premier, l'Évangile. On entend souvent l'Évangile disant que c'est une bonne nouvelle. L'annonce du salut aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça l'Évangile. Et tout le monde dirait, ben oui, c'est ça. Mais ça va plus loin que ça. L'Évangile, c'est beaucoup plus que cela. L'Évangile, c'est une manière de vivre qui nous amène à changer notre vie. Au début, lorsqu'on parle de l'Évangile, on parle d'une vie transformée. et encore plus, une vie qui se transforme jour après jour. Lorsqu'on a accepté le Seigneur comme notre sauveur personnel, notre vie a commencé à se transformer. Mais elle n'a fait que commencer à se transformer. Elle se continue jour après jour à se transformer. Dans la pratique, que veut dire une vie qui se transforme par l'Évangile? Lorsque Christ est mort sur la croix, il est venu dire aux hommes, acceptez ce message et vous serez sauvés. Acceptez le message de la croix et vous serez sauvés. Mais il dit plus que cela. Acceptez le message de la croix et vous serez transformés. Vous ne serez plus les mêmes personnes et à tous les jours que le matin, à tous les jours que Dieu fasse, vous ne serez plus jamais la même personne. Comment est-ce qu'il a fait ça? En inversant les valeurs du monde, les valeurs que nous avions héritées de nos pères. En inversant les valeurs complètement. Nous n'avons plus les mêmes valeurs. Et c'est là ce que je vous ai dit aux jeunes tout à l'heure, ce que j'ai lu, ça m'a frappé. Et je veux le vous relire, c'est un argument de M. Timothy Keller. Par cette conception de la croix, la glorification du pouvoir, de la force, du prestige sont mis en lumière et vaincus. Sur la croix, le Christ gagne en perdant, triomphe à travers de la défaite, parvient au pouvoir en passant par la faiblesse et par le service, obtient la richesse en donnant tout ce qu'il a. Jésus-Christ inverse les valeurs du monde. Celui qui entre dans le monde de la croix entre dans un monde complètement inversé en matière de pouvoir, de reconnaissance, de statut et de richesse. L'argent devient un bien à distribuer. Le pouvoir ne sert qu'au service. La supériorité raciale et sociale, l'accumulation aux dépens d'autrui des richesses et du pouvoir, la soif de popularité et de reconnaissance sont tous des signes normaux de la vie humaine, sont opposés à l'état d'esprit de ceux qui ont compris la croix et en ont fait l'expérience. Christ crée un monde entièrement nouveau. Un monde complètement changé. Dans ce que l'on a lu, ce qu'il faut retenir de l'Évangile, c'est que c'est une transformation continue. Et c'est en opposition aux valeurs du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà fait partie d'un concours pour avoir un travail, mais si dans votre entrevue vous diriez « je vais perdre afin de gagner » ou « je vais avoir la défaite afin de triompher », probablement vous n'auriez pas la job. C'est clair que ce n'est pas les valeurs du monde. On ne perd pas pour gagner. On ne fait pas la défaite pour triompher. On ne parvient pas au pouvoir par la faiblesse et par le service. On n'obtient pas la richesse en donnant tout ce que l'on a. Et pourtant, c'est les valeurs que Christ, par la croix, avance, met d'avant. Et c'est là l'Évangile que l'on veut parler. Et lorsque je lisais ça par après, tout à l'heure, je relisais mon texte, puis je pensais à 1 Jean 2,15. Les choses du monde sont inimitié contre Dieu. Les choses du monde n'ont plus la même valeur. Dieu change ça dans notre esprit. Voilà l'explication de l'Évangile. Il y en aurait bien d'autres explications. C'est large, le terme Évangile. Mais voilà ce que je veux que vous reteniez. Le deuxième mot, c'est mon cœur. L'Évangile est mon cœur. Mon cœur, d'où viennent les sources de la vie. Mon cœur qui est tortueux par-dessus toute autre chose, qui peut le connaître? C'est-à-dire qu'il doit être vérifié constamment en face de l'Évangile. Mon cœur est tortueux. Savez-vous c'est quoi quelque chose de tortueux? Avez-vous déjà eu affaire à quelqu'un de tortueux? Ça m'est arrivé une fois. J'ai acheté un piano un jour dans ma vie. J'ai jamais joué. mais je me suis fait avoir. Comme fou. Puis j'ai appelé quelqu'un d'autre pour venir le réparer. Le monsieur n'était pas chrétien, mais il connaissait beaucoup de chrétiens. Et puis, pour vous donner un exemple comme quoi qu'il m'avait vraiment, je m'étais vraiment fait avoir, il sortait de la maison et il disait, « on fait pas ça un chrétien, on fait pas ça un chrétien. » Je m'étais fait vraiment avoir. Un homme tortueux qui m'avait manœuvré. Notre cœur est comme ça. Il nous manœuvre. Il nous manipule d'une certaine mesure, si on l'écoute. Il doit être constamment remis en face d'Évangile. L'Évangile est notre cœur. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et on devrait avoir une bonne nouvelle pour notre entourage. Mais mieux que ça, nous devrions être la bonne nouvelle pour ceux qui nous entourent. On devrait avoir plus qu'un message. Nous devrions être le message. Les gens devraient avoir le goût, devraient avoir se poser des questions. C'est quel genre de bonhomme que c'est ça? Comme nous devons avoir l'attitude pour que l'Évangile atteigne les cœurs des gens qui ne connaissent pas Dieu, nous devons avoir un cœur transformé. Un cœur transformé qui se transforme à tous les jours pour avoir le véritable impact que Dieu veut que l'on ait. C'est-à-dire que de la même manière que notre cœur s'est transformé par l'Évangile, à notre nouvelle naissance, il nous est indispensable de continuer à vivre dans cette transformation. Pour continuer, j'aimerais qu'on lise Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qui l'envoyèrent dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qu'on mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il s'est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et maintenant, et qu'il est retrouvé. » Nous croyons et nous disons souvent qu'il y a deux manières de vivre. Il y a la manière religieuse et la manière irreligieuse. Mais nous pouvons dire que maintenant, il y en a trois. Il y a la manière irreligieuse, oui, la manière religieuse, mais aussi l'Évangile. Irreligieuse, c'est essayer d'être son propre Dieu en désobéissant aux lois de Dieu. La manière religieuse, essayer d'être son sauveur en obéissant aux lois de Dieu. Et l'Évangile, qui est une vie de transformation constante pour en arriver à la ressemblance de Christ. La différence entre l'irreligieuse et la religieuse est facile à voir. On sort sur la rue, on va et on marche et on en voit plein des gens qui vivent sans religion, qui vivent sans rendre compte à Dieu d'absolument rien. Et la religieuse, on la connaît aussi. Mais la différence entre la vie religieuse et l'Évangile est plus difficile à voir. Parce que bien souvent, elle se voit seulement dans le cœur. Donc, ce soir, je ne vous parle pas à vous, mais je veux parler à votre cœur. C'est la partie de vous à laquelle je m'adresse. La religion est un mode par défaut. Ceux qui font des ordinateurs, ceux qui travaillent aux ordinateurs, vous savez c'est quoi? Quelque chose qui apparaît par défaut. Lorsqu'on ouvre l'ordinateur, c'est ce qui apparaît, la première page qui apparaît toujours, constamment. La religion dans notre cœur, c'est exactement la même chose. Notre tendance naturelle, c'est d'être religieux. On retourne à une vision religieuse de la vie. On a tendance à vivre en pensant que nous méritons les faveurs de Dieu. Naturellement. Pour changer cela, il faut changer notre page. On est beaucoup plus intéressé par les faveurs de Dieu que par Dieu lui-même. Vivre religieusement est un mode de vie qui nous est collé à la peau. C'est quelque chose que l'on transporte. Sans y penser, on retourne à notre petite religion intérieure. Cette histoire qu'on vient de voir pourrait porter un autre titre. On pourrait parler de deux relations avec le Père. Deux relations différentes. Il y a un homme qui dilapide ses biens, les biens du Père. Mais il y a aussi l'histoire du frère aîné, un homme très religieux, obéissant et qui a le même cœur que son frère. Deux hommes différents, mais deux hommes pareils. On voit dans cette histoire deux manières de vivre, l'irreligieuse et la religieuse, avec le même cœur. Dans le premier, il est facile de voir l'attitude du péché. On voit l'homme qui dilapide ses biens avec des prostituées, les parties, puis tout ce qui s'ensuit, sans aucune... Il veut faire sa vie comme il veut. Sans problème. Il veut profiter des biens de son père à sa manière. Mais on voit aussi l'autre homme, le fils aîné, qui obéit à son père parfaitement, mais à la fin, il révèle son cœur. Moi, j'ai obéi et je mérite donc plus. Lui, il a dilapidé ses biens. Mais moi, j'obéis, je suis un homme intègre. Je suis parfait. Je viens à l'Assemblée tous les dimanches. Je donne ma dîme. Parfois plus, parfois moins. Mais je la donne. Et je fais toutes sortes de choses. Il exprime les motivations de son cœur. Ce que le père donne finalement au jeune fils qui revient, ce sont les biens du plus âgé. Il a tout dilapidé ses biens. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est juste les biens du plus âgé. Ils disent, « Oh, attends une minute, ça ne marche pas. » Là, il se rebelle. Même s'il a eu une bonne attitude durant un bon nombre d'années, ses motivations se déclarent à la fin. Et ses motivations sont beaucoup plus les biens du Père que la joie du Père lui-même. Ce qui l'intéresse, c'est le veau gras, la robe, puis l'agneau, puis l'anneau. Mais la joie du Père, il ne la voit pas. Il voit l'injustice à son égard. Son frère, qui a dilapidé ses biens, revient repentant. Il est accueilli chaleureusement par son père. Tu le vaux gras. Il donne une bague puis un manteau. Franchement, est-ce que vous voyez l'injustice dans ça? Si je regarde dans mon cœur, je peux dire, « Ouais, c'est pas équitable. Il est parti, il a tout flobé son argent, il n'a rien gardé, il revient repentant. » Facile. Il revient, le manteau, la bague. Mon cœur humain voit une injustice. Si le fils prodigue a une relation irreligieuse et ensuite qu'il revient repentant, le fils aîné a une vie très religieuse, par contre. Il fait ce qu'il doit faire. Et c'est son argument au père. Au verset 29, il dira, « Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Tant d'années que je te sers. » Et comme pour le fils plus jeune, le père doit sortir à la rencontre de son fils. Il est remarquable que le père agit la même chose pour un que pour l'autre. Le père était au-devant du fils prodigue et le père est au-devant du fils aîné aussi pour l'accueillir dans sa maison. Et il va dire au, le père au verset 31, et c'est la première phrase qu'il dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. » Tu es toujours avec moi. C'est-à-dire, ton premier bien devrait être la relation que nous avons ensemble. Et non pas ce que j'ai, toutes les richesses que je peux avoir, mais la relation que nous avons ensemble. Si vous regardez le fils aîné, il correspond exactement à la personne religieuse qu'il a des droits et il les demande. Il veut être valorisé selon les œuvres qu'il accomplit. Il fait ce qu'il a à faire. Et ceux qui ne font pas comme lui ne sont pas du même rang. Il s'arrête à la justice selon sa perception et non selon celle de son père. Vous avez eu une feuille, mon épouse vous a distribué une feuille à l'entrée, et vous avez d'un côté la religion et de l'autre côté l'Évangile et la relation entre les deux. J'obéis à Dieu afin que j'aie des faveurs de Dieu. Dans la troisième rangée. Vous excuserez, la photocopie n'est pas super. Là. J'ai pas vu la chose avant quand il était fait. Mais l'Évangile, j'obéis à Dieu afin d'avoir Dieu, lui faire plaisir et lui ressembler. Ou juste celui en dessous, lorsque les circonstances de ma vie vont mal, je suis en colère contre Dieu ou moi-même, car je crois que quiconque est bon mérite une vie confortable. Et c'est l'homme religieux qui dit cela. Mais l'homme selon l'Évangile, lorsque les circonstances de ma vie vont mal, je lutte, mais je sais que toutes les punitions qui me revenaient sont tombées sur Christ et que Dieu permet cela. Pour ma fortification, il veut exercer son amour paternel dans cette épreuve. Voilà l'Évangile. Je vous rappelle ici, mes frères et sœurs, que malgré que l'Évangile fasse partie de notre vie, nous avons cette tendance à vivre religieusement. Et que sur un point ou un autre, nous arrêtons bien souvent l'Évangile de transformer notre vie. Je vais revenir à la feuille, cette feuille-là plus tard, à la fin, à la conclusion. Mais quel genre de frère aîné aurait dû avoir le fils prodigue? Quel genre? Le genre de frère, selon Dieu, qui aurait mis son propre manteau sur les épaules de son frère, qui lui aurait donné sa bague, qui aurait tué son veau gras, qui lui aurait donné sans retenir. Le frère aîné aurait ressenti une grande joie de voir le père aussi content. Un frère aîné qui comprend et vit la grâce de Dieu à chaque instant. Voilà le frère aîné que le fils prodigue aurait dû avoir. Frères et sœurs, Christ est ce frère aîné qui nous aide et qui nous comprend et qui comprend la grâce de Dieu dans nos vies. Christ a été ce frère aîné qui n'a pas regardé à ses droits et ses privilèges, mais qui s'est tourné vers nous et qui a répondu à Dieu en disant, « Je vais aller vers eux. Je vais mettre mon manteau sur eux. Je vais les enrichir avec la bague. Je vais être avec eux et je vais être content. » Les valeurs d'un tel grand frère sont basées sur l'Évangile. C'est à quoi nous avons dit oui, il y a quelques années pour certains, il y a quelques mois pour d'autres, ou peut-être beaucoup d'années pour d'autres, ou peut-être que vous n'avez pas encore dit oui à l'Évangile. Mais de toute manière, Dieu vous invite à la vivre, cet Évangile-là. Et non pas juste à accepter Christ comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, comme celui qui règne, comme celui qui a le droit de transformer votre vie. Des valeurs que Dieu veut mettre dans notre vie complètement opposées au monde. Opposées aussi à notre cœur non transformé. Dieu veut nous donner une autre manière de penser. Mais une autre manière de penser, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas en claquant les doigts. Ça se fait jour après jour. Semaine après semaine, mois après mois. Et Dieu nous montre des choses à travers sa parole. Et Dieu nous fait grandir. Et Dieu nous fait réaliser que les valeurs que nous avions avant ne sont plus les mêmes. Notre responsabilité, c'est de ne pas empêcher Dieu de transformer notre vie et de se mettre disponible à lui. La principale préoccupation de Christ a été la gloire de son Père. C'est dans ce sens que nous devons vivre l'Évangile. La gloire de Dieu. Si ce que je fais glorifie Dieu, je le ferai. Mais si j'ai un doute que ça glorifie Dieu, si je crois que ça ne glorifie pas Dieu, je devrais m'arrêter. Et je devrais demander qu'est-ce que je devrais faire à la place. Ce que je dois faire doit glorifier Dieu. Et c'est ce que Christ a fait et c'est ce qu'il nous demande de faire. Quelquefois, nous allons voir le médecin. Très peu souvent, pour ce qui est de moi, en tout cas, là, je déteste aller voir le médecin. Puis mon épouse me le dit bien souvent. Mais normalement, nous devrions aller voir le médecin annuellement, une fois par année, minimum, pour faire un bilan de notre santé physique. Moi, je n'y vais pas, je sais exactement ce qu'elle va me dire. Quelle est la dernière fois que vous avez été voir le médecin de votre âme? Quelle est la dernière fois où vous lui avez demandé « Quelle est ma progression spirituelle, Seigneur? » Replaçons encore une fois la croix et son message, l'Évangile, dans notre cœur, dans le but de se laisser transformer par la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. J'aimerais, cette feuille que vous avez eue, c'est un petit devoir. Naturellement, je ne vous demanderai pas de le remettre, il n'y a pas de place pour écrire les noms. Mais si vous vous sentez le besoin de le faire, si vous voulez venir me voir avec ça, ou si vous voulez voir quelqu'un de confiance, faites-le. Nous sommes pour la redevabilité, dans la mesure que c'est fait volontairement. Et on voit un côté où on regarde des actes religieux, et l'autre côté où c'est l'Évangile. Et à lire, on voit la différence. Et vous avez deux questions dans le bas. Juste deux. Ce n'est pas un examen très, très élaboré, sauf que ça va vous peut-être rendre une vie à y répondre. Et la première question, c'est êtes-vous d'accord que la religion est un mode par défaut dans le cœur humain? En quel temps ou en quelles circonstances est-il vrai dans votre cœur? Une religion par défaut. Ou la deuxième question, regardez le tableau ci-dessus et encerclez ce qui est vrai dans votre propre cœur. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez changer? Vous pouvez entourer les choses qui vous frappent. Vous pouvez entourer les choses que vous vivez. Et devant Dieu, vous pouvez dire, Seigneur, voilà ce que j'aimerais changer. Savez-vous, c'est quoi la première étape d'une guérison? La toute première étape d'une guérison. Gabriel, qui étudie en médecine, c'est quoi la première étape d'une guérison? Connaître la maladie? Un peu, c'est ça que tu voulais dire. Connaître de quoi qu'on est malade. Ça ne sert à rien de prendre des aspirines si j'ai pas mal à la tête. Ou prendre une autre maladie si j'ai un cancer et que je mets un plaster sur le doigt. À moins que ce soit un cancer du doigt. Connaître la maladie. Ça nous aide à trouver la maladie. Vous avez peut-être des choses que vous pouvez rajouter. Vous avez l'endroit de la feuille qui est vierge. Qu'est-ce qui fait? Quelle est ma maladie? Qu'est-ce que Dieu veut que je change dans ma vie? Et on va prier. Merci Seigneur, merci infiniment pour cet évangile qui transforme des vies, qui change ce que nous avons en dedans de nous, Seigneur. Trop souvent, nous marchons avec le monde. Trop souvent, nous avons ces réflexions du monde. Les gens ne voient pas de différence entre nous et les non-chrétiens. Nous avons besoin, Seigneur, de se remettre devant toi, de remettre nos valeurs, Seigneur, à ton diapason. Nous avons besoin d'ajuster notre instrument, Seigneur, pour qu'il résonne pour ta gloire. Donne-nous un cœur qui veut se transformer. Donne-nous un cœur, Seigneur, qui fait ce qu'il faut pour être transformé. Donne-nous un cœur qui est à ta gloire et à ton nom. Nous te demandons cela pour aujourd'hui, mais nous te demandons cela pour tous les jours de notre vie. Personne n'a besoin de voir au plus profond de notre cœur, mais toi, Seigneur, tu as les yeux dessus. Tu vois ce qui est au cœur, tu ne vois pas ce qui est à l'apparence. Bien, Seigneur, nous voulons que tes yeux regardent en même temps que nous et qu'ils nous montrent ce que nous devons faire pour changer notre vie, pour devenir de plus en plus selon l'Évangile. Nous te remercions de nous emmener là, Seigneur. Nous te remercions de changer notre vie, car si nous t'avons accepté, c'est que nous en étions dégoûtés. Mais Seigneur, maintenant, nous pouvons être en nouveauté de vie. Nous pouvons être une nouvelle créature en toi. Et tout cela vient de toi et par ton évangile. Donne-nous un message clair de la croix dans notre esprit et les pas de la foi pour y marcher. Pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur. Amen.